Attention, attention, heurage moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Eh oui, il est 6h avant minuit et vous écoutez l'émission d'information locale de Syllab. Vous avez bien raison, nous sommes le jeudi 22 janvier 2026. Est-ce qu'il y a des amoureux et amoureuses de la danse autour de cette table? Super, ça va vous intéresser. Alors, Waterproof, le festival de danse rennais qui recommence pour sa 7e édition le 28 janvier et ce sera jusqu'au 8 février. Et pour l'occasion, Syllab vous offre une place pour deux événements de la programmation. Alors, il y a le spectacle Tatiana de Julien Andujar, qui est une pièce dédiée à sa sœur disparue, à la fois fiction autobiographique, conte documentaire et numéro de cabaret. Donc ça se passe le 3 février à 20h au Triangle, la cité de la danse rennaise. Et puis autre salle, autre ambiance, vous pouvez aussi tenter de gagner une place pour la Let's Dance spéciale Waterproof. Ça, ce sera le samedi 7 février à 23h à l'UBU. Pour jouer, vous avez besoin d'un mot de passe. Le mot de passe, c'est Triangle, comme le nom de la cité de la danse rennaise qui organise le festival. Un jeu concours, deux événements. Si vous choisissez le bon mot de passe, l'attribution du spectacle gagné se fera par tirage au sort. Bonne chance à vous. Tout de suite, le flash de Joséphine. À toi, Joséphine.
Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est exprimé lors du Forum économique mondial de Davos. Lors de cette réunion annuelle, il a abordé le sujet du Groenland et de la guerre en Ukraine. Il a affirmé que les États-Unis restent des alliés de l'Europe, tout en réitérant sa volonté d'acquérir le Groenland par des négociations immédiates et sans recours à la force. Ces déclarations ont provoqué des réactions en Europe, dont la France, qui ont engagé des discussions et des exercices militaires afin de veiller à la sécurité du Groenland. Donald Trump a également annoncé qu'il devait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd'hui afin d'évoquer le conflit en Ukraine. Le Conseil de la paix de Donald Trump devient réalité. Aujourd'hui, au Forum économique mondial de Davos, le président américain a participé à une cérémonie de signature de la charte fondatrice de cette nouvelle institution, une organisation internationale qui rivalise avec l'ONU, perçue comme obsolète par la Maison Blanche. Retour sur les détails de ce projet, au ticket d'entrée à 1 milliard de dollars avec Florine.
Après le Groenland, Donald Trump s'attaque à l'ONU. Le président américain l'a assuré, cette instance travaillera, je cite, « en coordination avec les Nations Unies ». Pourtant, le milliardaire ne s'en cache pas. Il s'attaque très directement aux institutions mondiales avec ce nouveau projet qu'il a qualifié sur son réseau social Trust Media comme le meilleur et le plus prestigieux conseil jamais formé. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Trump de proposer une alternative à l'ONU en matière de gestion des crises globales. Alors, comment fonctionnera exactement cette instance ? Le Conseil de la paix se veut être une organisation internationale œuvrant pour la paix dans les zones de conflit. Au départ, il était censé gérer uniquement la reconstruction et l'après-guerre à Gaza. Mais après avoir regardé de plus près la charte, elle ne se limite pas à ce territoire. Le mandat du Conseil est en fait beaucoup plus large. Selon le préambule du texte envoyé aux États invités, le Conseil de la paix promeut la stabilité et la paix dans les zones de conflit. La charte est censée entrer en vigueur quand au moins 3 États l'auront signée. Chaque État membre pourra exercer un mandat de maximum 3 ans. Pas de prix d'entrée officiel, mais pour devenir membre permanent et donc ne pas être assujetti à un mandat défini, les pays doivent verser 1 milliard de dollars. Pour l'instant, sur environ 50 invitations, 35 dirigeants ont accepté. Le roi du Maroc, Mohamed VI, le rejoignant en tant que membre fondateur. Mais aussi le cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, ainsi que Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien. Hongrie, Bulgarie, Kosovo, Arménie, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Turquie, Argentine, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Pakistan, Indonésie, ou bien encore Mongolie, les pays ayant répondu positivement sont nombreux. Donald Trump a même affirmé que Vladimir Poutine se joindrait à eux, même si la Russie a seulement déclaré étudier la proposition. Du côté du non catégorique, la France, la Norvège, le Royaume-Uni et l'Ukraine refusant de siéger aux côtés de la Russie dans un organe, appelant à la paix. Autre point de méfiance envers ce nouvel organe institutionnel, sa gouvernance. Donald Trump se nomme lui-même président du Conseil. Lui sont conférés des pouvoirs très étendus. Lui seul est habilité à inviter d'autres chefs d'État à sa table, mais aussi à pouvoir révoquer leur participation, sauf en cas de veto, par une majorité de 2/3 des États membres. Le président des États-Unis pourrait même en conserver la présidence, y compris après la fin de son mandat.
Cette initiative pourrait redessiner les contours de la diplomatie mondiale, mais reste incertaine quant à son influence réelle. Des critiques se font déjà entendre. Pour l'entourage d'Emmanuel Macron, je cite « Ce projet soulève des questions majeures, en particulier quant au respect des principes et de la structure des Nations Unies, qui ne saurait en aucun cas être remise en cause. L'avenir de ce Conseil et son impact face à la résolution des conflits mondiaux reste à prouver. Va-t-il participer à résoudre ou bien à aggraver les fractures d'un paysage international déjà divisé ? Hier, le Parlement européen a voté la saisie de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Cette décision vise à suspendre la procédure de ratification du traité de libre-échange, retardant ainsi sa mise en œuvre de plusieurs mois. La saisie empêche le Parlement européen de procéder à un vote final tant que la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas prononcée. Cette initiative a été saluée par la France et de nombreux agriculteurs, notamment français. Ces derniers sont contre l'accord en raison du risque de concurrence accrue des produits agricoles sud-américains sur les marchés européens. Marine Le Pen, chef du Rassemblement national, est jugée en ce moment pour détournement de fonds publics européens. D'autres responsables du parti sont également concernés. Le procès en appel se déroule du 13 janvier au 12 février 2026. Après une condamnation en première instance, le 31 mars 2025, pour des faits commis entre 2004 et 2016, l'affaire est aujourd'hui examinée devant la Cour d'appel de Paris. Marine Le Pen conteste la décision en plaidant la bonne foi et une interprétation différente des règles. La politicienne cherche à éviter une peine comprenant notamment 5 ans d'inéligibilité qui compromettrait sa candidature à la présidentielle de 2027. Société Générale annonce la suppression de 1800 postes en France. Ce plan social, qui concerne près de 40 000 collaborateurs et collaboratrices, doit être mis en œuvre d'ici la fin de l'année 2027. Il vise à adapter la structure et le fonctionnement du groupe aux évolutions du marché tout en maîtrisant les coûts. La réduction des effectifs se fera principalement par des départs naturels et de la mobilité interne, sans recourir à des licenciements contraints. La CGT dénonce cette décision et l'absence de mesures d'accompagnement. Le syndicat le rappelle, un plan de 900 suppressions de postes a déjà été annoncé en février 2024. La validation du projet est attendue pour fin avril. Après le Morbihan et le Finistère, l'Ille-et-Vilaine également en vigilance orange pour crues et inondations. Cette situation devrait se prolonger jusqu'à vendredi. La nuit dernière, un nouvel épisode pluvieux a fait fortement monter les niveaux de cours d'eau, comme l'Audé, le Leita et le Blavet, dont les débits atteignent ou dépassent les seuils de vigilance. Ces fortes pluies ont entraîné des fermetures de routes ainsi que des inondations, notamment à Quimper et Quimperlé, dans le Finistère. Face à ce risque, les autorités appellent la population à la prudence en évitant les routes immergées et en suivant les informations locales pour limiter les dangers. Est-ce que le prix vous importe plus que la provenance ? Hier, les eurodéputés ont décidé d'envoyer le traité du Mercosur devant la Cour de justice de l'Union européenne. Pourtant, la question de la production locale reste dans la bouche des Rennaises et des Rennais. L'AFKEN est allé demander aux consommatrices et consommateurs quel impact le Mercosur pouvait avoir sur leur quotidien.
Oui, je consomme des produits locaux. D'ailleurs, je prends souvent des produits biologiques que l'on dit plus chers. Alors, ça reste à voir, ça reste lesquels ?
Pierre, de son nom d'emprunt, est venu chercher son déjeuner à la Criée, place incontournable du marché local rennais. À ses yeux, le Mercosur n'est pas désirable pour l'agriculture locale.
Les agriculteurs français se trouvent pénalisés, effectivement. Si on importe des produits d'Amérique du Sud qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires que chez nous en Europe, à moindre coût et avec une qualité moindre, voilà.
Un constat que Bastien, client d'une épicerie bio, partage, mais pour lui, les consommateurs et consommatrices qui le peuvent doivent aussi prendre leurs responsabilités.
Oui, tout ce qui est bio et plutôt local, ça nous va bien. Ouais. Alors j'ai la chance de pouvoir le faire. Je pense que oui, effectivement, dans nos vies, on peut consacrer un peu plus à l'alimentation. L'enjeu dépasse ces simples agriculteurs.
Cécile, je suis vendeuse en épicerie bio indépendante.
Après avoir travaillé comme maraîchère et arboricultrice, Cécile tient désormais une épicerie aux produits bio et locaux dans le centre de Rennes. D'expérience, son avis sur le traité du Mercosur est tranché.
On a une grosse concurrence hyper déloyale sur tous les produits agricoles et enfin voilà, une belle destruction de la planète aussi derrière, ouais. Bon, on en parlait déjà pas mal, mais là effectivement, là ça commence à être super compliqué. J'ai des amis qui sont éleveurs et franchement, ouais, non, c'est un vrai problème quoi en fait. En bio, mais il n'y a pas de protection en bio, il n'y a plus de protection, ça fait 5 ans qu'ils ont détricoté les protéines, on n'a même plus d'aide.
Malgré tout, Cécile reste optimiste quant à la production locale rennaise.
Globalement, sur le territoire brétilien, ça reste quelque chose d'important, mais parce qu'on est un bassin de production. C'est historique chez nous, quoi. Et vraiment, les gens, ils ont cette volonté de consommer local, ouais. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours de savoir réussir à mettre un nom ou un visage sur des producteurs. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, on fait des marchés de producteurs pour que nos clients puissent voir aussi la tête qu'on en produit. C'est hyper important, en fait.
Dans ce contexte de tension commerciale, aucune concession automobile que nous avons contactée n'a donné suite à nos échanges. Côté vin et spiritueux, autre secteur qui pourrait être avantagé par le traité, seule une caviste rennaise nous a accueillis. Anonyme, son avis sur le Mercosur n'est pas encore défini.
Oui, je pense, enfin peut-être, sûrement, ça peut permettre de développer le commerce à l'international. Voilà.
Merci Lafken, et si les tensions agricoles ne baissent pas, le Parlement européen espère s'offrir un peu de répit en attendant la réponse de la Cour d'appel européenne de justice. L'événement Geek Days fait son retour à Rennes, célébrant la pop culture. Manga, gaming, cosplay et création artistique. L'événement se déroulera au Parc Expo de Rennes les 7 et 8 février prochains. Organisé sous forme de salon immersif, il proposera des jeux vidéo, des animations, des shows, un espace cosplay avec défilés et concours, ainsi qu'une compétition de gaming en live. 15 000 visiteurs sont attendus dans le but de rassembler les amateurs et amatrices de pop culture. Les billets sont disponibles en ligne sur geek-days.com.
C'était le premier flash de Joséphine dans 6h20 minutes. Merci à toi.
Merci.
On te réentendra bientôt, j'espère.
J'espère.
À très vite.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et encore une première ce soir, la première interview de Titouan dans notre émission. À toi.
Bonjour à toutes et à tous.
Salut.
Alors. Merci. Si vous êtes baladé dans les rues de Rennes ou bien dans les lieux culturels de notre magnifique ville, vous avez sûrement dû apercevoir le sublime poster d'un Playmobil menaçant avec son pistolet prêt à ouvrir le feu alors qu'il est lui-même pris pour cible. Ce poster n'est autre que celui du Festival de cinéma documentaire Images de justice sur la thématique de comment filmer son ennemi. Il a lieu du 29 janvier au 1er février et il est réalisé par l'association Le Comptoir du Doc. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Marianne Bressy avec ses magnifiques cheveux bouclés, programmatrice, mais aussi directrice artistique de l'événement. Est-ce que tu vas bien ?
À titre, c'est une intro géniale, franchement. Alors, pas mes cheveux bouclés, ça c'est gentil, mais ton intro était superbe. Oui, effectivement, l'affiche, elle est magnifique,
elle
tape l'œil et elle raconte bien ce que j'ai voulu.
Je suis tout à fait d'accord. Mais si tu veux, on peut en parler maintenant. pourquoi cette affiche, qui l'a trouvée,
Alors c'est moi qui l'ai choisi, c'est l'extrait d'un film Green Line avec lequel on commence le festival, donc sur le Liban, la guerre du Liban dans les années 80, où justement Fidal, personnage principal qui est aussi maquetté dans le film en Lego, va interviewer, va demander à des tueurs, en gros ceux qui ont participé à cette guerre, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà. Elle va leur demander de rendre des comptes. Et puis elle parle de son enfance, puisqu'elle l'a vécu, elle était petite. Donc du coup, il y a toute une séquence qu'on va retrouver dans la bande-annonce avec le personnage qui la prend en joue là.
Ok, bah merci beaucoup. Et pour les auditrices et auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter l'association Comptoir du Doc et la genèse du projet Image de Justice, qui est quand même à sa 23e édition cette année, donc déjà bravo pour la longévité.
Bravo à vous qui allez fêter vos 30 ans. Moi j'étais là il y a 27 ans, franchement je suis trop fan de votre boulot, donc joyeux anniversaire à vous. Comptoir du Doc est là depuis bien longtemps aussi. Son objectif, c'est de vous prouver que le documentaire, c'est pas du reportage mais bien du cinéma. Pas de la fiction mais du cinéma, donc quelque chose d'écrit avec un rapport très subjectif et une façon de voir le monde et de le transmettre. Donc ça c'est l'idée de Comptoir, donc avec l'idée de montrer des films et d'inviter les auteurs à rencontrer le public. Image de justice, c'est plus thématique sur les questions de justice, alors je mettrai plein de S à justice. C'est pas que les questions d'avocat, de procès, de même si on retrouve ça forcément dans le festival, mais c'est vraiment la question de la justice au sens philosophique et éthique du terme. Donc la question de l'ennemi rentre complètement en plein dans cette question. On vient de se faire quand même un petit 10 minutes d'actualité qui donne envie de venir et d'être malade. Et la question du festival, c'est comment est-ce qu'on peut supporter cette actualité, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et comment les cinéastes, eux, y répondent à cette actualité? Comment on peut s'emparer de ce Trump qu'on a envie de descendre, faut le dire, quoi. Et d'ailleurs, il y aura des plaidoiries par des avocats qui vont nous raconter comment ils défendent leur ennemi. Et un des ennemis, je crois que je peux le dire, c'est Trump. Donc voilà, il se trouve qu'avec le festival, cette année, on est dans une actualité brûlante. On a des films iraniens avec des réalisateurs iraniens. On a une soirée sur le FNRN en plein procès Marine Le Pen, qui a été jugé en première instance coupable, faut quand même le dire, voilà. Donc c'était une façon de répondre à cette actualité dont on ne sait pas quoi faire, et de voir comment les cinéastes, eux, ils attaquent la question de l'ennemi, quoi. Comment est-ce qu'on reprend pied avec eux? Alors il y en a qui vont dialoguer avec eux. On a par exemple Iranien, où Mehran Tamadon met 4 mollas dans son salon pour parler de droits de la femme, de hijab, de, voilà, et surtout de laïcité. Et on se retrouve aussi dans ce film-là avec un renversement des valeurs qu'on voit partout ailleurs dans notre actualité à nous, renversement des valeurs quand la gauche devient l'extrême gauche fasciste alors que l'extrême droite devient le consensus, par exemple. Et ben là, les mollahs, ils lui disent tu prônes la laïcité, c'est une idéologie et tu le fais comme un dictateur. C'est comme Trump qui devient le dictateur de la paix, ça, ou non, on sait même plus comment. Voilà. Donc du coup, on fait des échos un peu, alors c'est, voilà, l'actualité, j'avais pas prévu qu'il y ait des manifs iranienne, qu'il y ait autant de morts. Et que, par contre, quand je propose un film sur la Palestine, comme je le fais régulièrement dans mon festival, voilà, j'ai envie de dire quelque chose sur Gaza et sur le fait que personne n'ose dire que c'est un génocide et que tout le monde laisse faire. Alors on n'a rien sur le Venezuela, mais le silence total qui a entouré cette histoire, merde, Trump est encore dans le...
Il est partout.
Donc j'ai pas de film là-dessus, mais bientôt. En gros, c'est vrai que le documentaire est rarement d'actualité parce que il se met en décalage, il prend le temps de réfléchir, d'analyser. Il se trouve qu'il y a aussi des vieux films qui malheureusement sont dans ce festival et nous racontent encore l'actualité d'aujourd'hui. Voilà.
Ok, super intéressant. Et là, tu as commencé déjà à nous parler de la diversité de pays qui sont présentés.
Ouais.
Il y a la France, le Liban, le Qatar, l'Allemagne, la Palestine. Ça va bien plus loin.
Et l'Indonésie.
L'Indonésie, ouais. C'était juste en dessous. Ah. L'Indonésie, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix de se focaliser sur un contexte international?
Bah parce que ça part tellement en couille en ce moment, que du coup c'est pareil partout, les montées des extrémismes, en fait clairement du capitalisme qui est en train de tout détruire. Donc j'avais envie, je pense, que l'ennemi ne soit pas seulement l'ennemi qui est à côté de soi, l'ennemi français. J'avais envie qu'on regarde plusieurs types d'ennemis, et les réalisateurs, là, ils se sont emparés de cette question de manière très très différente. Chaque film a vraiment son dispositif, son écriture, et en fait tu peux pas parler de la même façon à un ennemi qui peut te pointer une arme sur la tête. A priori, tu dis que tu vas pas pouvoir dialoguer. Pourtant, dans Iranien, je reviens sur Iranien que j'adore, il les met dans son salon et ils discutent, et même ils vont blaguer, alors que les gars qu'il a en face de lui peuvent le foutre en tôle. Donc, en fait, c'est pousser les limites et aller voir que les limites, elles sont partout différentes et qu'en fait, on retrouve les mêmes à la maison.
Tout à fait. Mmh. Super intéressant. Et au cours du festival, il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui viendront présenter leurs projets. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous d'avoir le créateur ou la créatrice qui explique sa vision concrète de son œuvre?
Ouais, je pense que c'est très important qu'il y ait un lien qui soit fait entre le spectateur et l'œuvre qu'on lui propose. Mmh. Parce que un documentaire, même s'il a travaillé 5 ou 6 ans sur son projet, voire plus, il y a plein de choses qui ne sont pas dites, il y a des choix qui n'ont pas été faits, et il n'y a rien qui remplace une rencontre et une discussion. Donc après, c'est parfois difficile de discuter juste après un film. Oui. Donc en fait, justement, sur cette édition, comme la thématique centrale, c'était comment filmer son ennemi, on va rencontrer les réalisateurs après chaque film, mais on va réserver la question du dispositif, notamment, et cette question de l'ennemi, et même une vraie discussion avec eux, sur la table ronde. Donc en fait, à la fin du festival, le dernier moment du festival, c'est les mettre autour d'une table ronde pour qu'on puisse enfin discuter, tous discuter ensemble. Mmh. Et que le public puisse aussi... Donc on montre les films pendant 4 jours, et au bout de 4 jours, on discute.
Mmh. On a un peu présenté plein de choses, enfin, t'as cité plein de moments qui vont se passer au cours de ces 4 jours. Ouais. Est-ce que tu saurais de tête redire tous les événements qui ont lieu? Il y a des concerts.
Déjà, il y a des films, il y en a 7.
Tout à fait.
Il y a une rencontre auteur, donc il y a Félicien Faury, qui est sociologue, qui a fait un boulot sur les électeurs du Front National, enfin du Rassemblement National, qui va venir raconter. En termes de date, c'est le Rassemblement National, alors que juste après, on a un film sur le FN, qui date de 2017, justement, où on suit un électeur qui est aussi un militant. Donc voilà, il va y avoir une masterclass avec Mehran Tamadon, qui est le gars qui a fait Iranien. Là, il est en train de faire un film en ce moment sur le RN, justement. Et en fait, on récupère un dossier à lui qu'il a écrit sur ce prochain film, des extraits de ce prochain film, et puis il va nous raconter comment est-ce qu'il a construit ce projet et vers quoi il va. Mais il est toujours, de toute façon, lui, son travail, c'est d'être en lien avec l'ennemi, en tout cas, d'essayer. Et puis là, on arrive aux plaidoiries des avocats, où donc le projet, c'est de défendre son ennemi, alors de manière jubilatoire et fêtarde. Et on arrive au samedi soir, et donc du coup, je propose un concert, un trio qui s'appelle Zaina. Donc là, on a viol de gamme, guitare, contrebasse, voix. Très très doux et très très fort, hyper intime et hyper puissant, donc voilà, je pense qu'on va se faire plaisir samedi soir. Et du coup, dimanche, t'as la table ronde et on fait un gros finish avec The Act of Killing, dont peut-être t'avais très envie de parler parce que c'est un film très particulier qui se passe en Indonésie, qui est daté et en même temps malheureusement complètement d'actualité. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait le film s'intéresse aux bourreaux qui ont tué entre 500 000 et 3 millions de soi-disant communistes en Indonésie suite à un coup d'état d'un général qui s'appelait Suharto, qui est mort. Aujourd'hui, le président de l'Indonésie, c'est le gendre de Suharto, et le 7 novembre, il l'a déclaré héros national. Voilà, et donc The Act of Killing, le réalisateur, débarque en Indonésie, et lui, ce qu'il veut, c'est plutôt questionner les victimes de cette tuerie de masse. Et en fait, il n'arrive pas à les trouver. Par contre, ce qu'il voit, notamment dans le pouvoir en place, c'est les bourreaux qui se la pètent grave, voilà, qui vivent dans une impunité absolue et qui sont hyper fiers d'avoir été bourreaux. Et en fait, il les suit et il leur donne même la caméra en leur disant « Allez-y, racontez-nous votre histoire. » Moi, j'ai l'âge d'avoir grandi avec les questions de la Shoah, du nazisme et de se poser la question de savoir qui étaient ces gens-là, d'où ils sortaient, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. C'est le seul film que je connaisse qui propose une plongée telle dans la vie et les mœurs d'un bourreau qui assume ce qu'il a fait et qui peut l'assumer parce qu'il n'est pas poursuivi. En fait, il n'y a jamais eu de tribunal, contrairement par exemple au Khmer Rouge, où il y a eu un symbolique ou un semblant d'eux, on va vous juger. Là, il n'y a pas, en fait. Donc du coup, ils sont en toute impunité, ils peuvent parader. Et dans ce film, ils vont parader. Donc du coup, à la fois, c'est un film extrêmement dur, bouleversant, parce qu'on voit des choses horribles, enfin, on entend des choses horribles, et en même temps, ceux qui se sont posés la question de savoir c'est quoi un bourreau et qu'est-ce qu'il a dans sa tête, c'est le seul film qui y répond, en fait. Ce film a été oscarisé en 2014, ce qui n'est pas tout à fait rien en termes de com, de pub, et en fait, quand tu vas en Indonésie et que tu parles de ce film, personne ne le connaît. Voilà.
Je suis très heureux que vous le mettiez dans votre programmation. Ça fait un an que j'essaye de le trouver et je vais pouvoir le voir au cinéma.
Ben, rendez-vous dimanche 1er février à l'Arvor à 20h15. Alors, il faut savoir que ce film, je l'ai déjà programmé dans Images de Justice il y a quelques années. Je ne l'avais pas introduit, je l'avais donné comme je l'avais reçu, c'est-à-dire sans introduction particulière. Les gens sont sortis de la salle avant la fin du film et ils étaient tellement énervés contre moi qu'il a fallu que je monte un groupe de parole d'une heure et demie pour discuter avec les gens, pour justifier pourquoi ce film était important. Et voilà. Donc là, je peux te dire, je vais l'introduire cette fois-ci.
Pour revenir en avance pour écouter le speech.
Bah ouais.
Mais, on a parlé d'un peu du contexte, on a bien parlé du contexte qui est plutôt glaçant et qui chaque jour est de pire en pire. Et on se dit, ça ne dépassera jamais et ça dépasse à chaque fois. Et on peut des fois être perdu, voire battu. Et selon toi, c'est quoi le rôle de l'art, et plus précisément du documentaire, dans ce contexte? Quelle place il doit prendre, même dans ce jeu de bataille médiatique, où on voit que les plus riches, ils ne sont pas forcément dans le camp qui veut freiner cette frénésie totale? Quelle place a l'art dans ce monde?
Ouais, je pense que là, aujourd'hui, quand on voit les médias nationaux... qui sont tous achetés par les mêmes personnes et qui donc nous inversent les valeurs des sens, des mots à tout bout de champ. L'art est justement là pour reprendre pied avec les définitions originelles et assumer d'être en résistance, de dénoncer, mais aussi ça peut être de comprendre, de dialoguer. Moi, je pense que beaucoup des réalisateurs qui ont fait les films que je propose là ont vraiment une réelle envie de changer le monde. Et changer le monde, c'est être en lien avec ce monde. Donc du coup, notamment Mehran, là, l'Iranien, lui, c'est sûr que il va vers l'ennemi pour essayer de mettre l'ennemi dans son camp. Et l'autre iranienne que j'ai invitée sur le festival, donc qui est une femme, elle va dans sa famille sans le hijab, alors que tout le monde l'oblige à porter le hijab. Et elle passe 27 minutes à être forte et à avoir le courage de leur dire « Mais en fait, mon opinion, ma liberté, c'est ça, c'est de ne pas porter le hijab et donc d'avoir une discussion avec sa famille où elle est rejetée de partout et avec le sourire, avec douceur, elle lâche pas l'affaire et on le voit dans le corps du film, elle change petit à petit les choses. Donc voilà, l'art, il a nécessité de dire et peut-être derrière de faire changer. En tout cas, moi je veux que le festival il soit politique. Vraiment, enfin, je pense qu'on a besoin, on en a besoin, puisqu'on n'a plus la voix nulle part, en fait. J'ai des idées, je veux les défendre. Je veux que ma voix, elle compte. Et je suis à la tête de ce truc-là. C'était l'occasion d'essayer de pas lâcher, en fait. Et de pas lâcher, ça veut dire vous réunir tous pour qu'on puisse en discuter, se lâcher un peu, et puis aussi écouter du son, et aussi écouter des avocats qui vont déconner. Voilà, pour se retrouver à la fin autour d'un verre et se dire, on va pas lâcher l'affaire, on va continuer, vous, à faire de la radio, et moi, à faire des films, et à en proposer... On va y arriver, putain.
C'est un super motif de sport, ça fait vraiment du bien. Et là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une petite dernière question. On a parlé de plein de films, d'œuvres qui sont au cours de la programmation. Si tu devais speecher à un auditeur ou une auditrice à un film, un concert qui ne doit vraiment pas rater sur les 4 jours qui viennent, ce serait lequel?
Clairement, c'est The Act of Killing. Enfin, il est à la fois odieux, mais il est d'une nécessité absolue, en fait. Je pense que t'as besoin de connaître l'ennemi pour lui parler et le faire changer, en fait. Je crois que c'est le seul film qui nous plonge autant dans la tête d'un taré, quoi. Voilà, et d'un taré qui a le pouvoir. Donc voilà, j'ai jamais vu un film pareil. Il faut avoir vu ce film-là, en fait.
Ok, j'y serai et j'espère que tout le monde y sera. Dans l'édito, vous parlez pas mal du rôle d'ennemi. Est-ce que ta vision de l'ennemi, elle a changé via tous les documentaires que t'as vus ou pas?
En fait, je crois qu'il y a vraiment cette question de est-ce que l'ennemi a le pouvoir de te tuer ou pas. Et du coup, c'est ça, est-ce que c'est un opposant politique avec lequel tu peux encore parlementer, comme on le voit dans le film La Cravate, où du coup les réalisateurs discutent avec le personnage principal qui est un militant FN vraiment convaincu, ou est-ce que, et donc du coup, ils arrivent à le faire petit à petit bouger, c'est-à-dire c'est presque une psychanalyse en une heure et demie de temps. Donc ça, c'est un ennemi qui serait un opposant politique, on est sur des idées thématiques, on peut encore discuter. Et puis à côté, tu as les bourreaux de The Act of Killing, mais tu as aussi les mollahs de Iranien, où tu te dis, mais le mec les met dans son salon alors qu'il pourrait, il peut finir en tôle derrière, il pourrait ne jamais rentrer en France. Donc du coup, lui, c'est peut-être Mehran qui m'a fait le plus bouger dans mes catégories, parce que lui, il les a réunis, il a réussi à les prendre, à les faire parler. Il se marre, Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des vannes. Alors, je ne sais pas si les mollas auront changé, et puis on voit bien que l'Iran n'a pas bougé. Mais en tout cas, c'est parce qu'il y a un Mehran qu'il y a des manifestations et qu'il y a encore des gens qui sont debout alors qu'ils sont en train de se faire assassiner dans les rues. Donc, je ne sais pas si mon avis sur l'ennemi a changé, mais ce qui n'a pas changé, c'est qu'on doit absolument se réunir et pas oublier qu'on est ensemble et qu'on est plus fort comme ça et qu'on finira par y arriver, comme je disais tout à l'heure.
Bah, merci beaucoup de ces mots qui réchauffent le cœur.
Et merci du tout pour ta première, bravo.
Ah, merci. Et encore une fois, bah, venez nombreux et nombreuses du 29 janvier au 1er février sur Rennes, dans plein de lieux. L'affiche est magnifique, elle est un peu partout. Donc merci beaucoup.
Merci Titouan.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et Julien est de retour. Ça faisait un moment pour son agenda culturel. À toi Julien, on t'écoute.
Et bonjour.
Salut.
Permettez-moi de vous souhaiter plein de bonnes choses.
Mais pour merci, toi
aussi. Cette nouvelle année 2016, que vous apporte la joie, la santé, la réussite. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai qu'un souhait pour cette nouvelle année. C'est celui de vous voir toujours aussi nombreux et nombreux à chaque événement. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui ont envie de passer un moment sympa à l'abri du froid, il y a pas mal d'expositions à voir en ce moment.
Ah super, on t'écoute.
Je vous invite à aller voir plusieurs expositions photos qui se déroulent au Champ Libre dans le cadre du Glass Arena qui met à l'honneur la photographie américaine. Parmi lesquelles... l'exposition Gastrid Lives, réalisée par Alec Sott, un photographe américain de 50 ans, originaire de Minneapolis, aux États-Unis. C'est un membre éminent de l'agence Magnum, réunissant les meilleurs photographes au monde. Il mélange le style documentaire et poétique. Il a voulu nous faire partager les plus grandes photos qu'il a faites durant sa carrière et qui l'ont amené à être reconnu mondialement comme l'un des plus doués de sa génération. Il les a regroupés en 4 séries majeures. Je ne sais pas si vous les connaissez. Pardonnez mon accent anglais qui n'est pas terrible. Sleeping by the Mississippi, Niagara, Broken Manuel ou encore Songbook. Cela retrace tous les endroits par lesquels il est passé entre les années 2004 et 2024. Nous montrant l'évolution de la société en 20 ans. On y voit également les moments de vie partagés ainsi que les rencontres qu'il a pu faire. Cela met en exergue le fossé entre les milieux aisés, la classe moyenne et les milieux populaires. Cette exposition est disponible dans la salle Anita Conti jusqu'en mars 2026. Vous pouvez retrouver également l'exposition s'intitulant Part of Fortune and Part of Spirit d'Anton Dolezal. Elle traite des nouvelles croyances religieuses qui ont émergé récemment dans l'ouest des États-Unis, une terre mystique où les décors se prêtent tout aussi bien à la rêverie qu'à la magie. Elle se trouve dans la galerie des Champs Libres jusqu'au 29 mars 2026. Ou encore l'exposition de Raïm Fortune s'intitulant « I can't stand to see you cry ». Il met en lumière sa famille et ses amis au Texas pour nous raconter comment ils ont vécu la période de la pandémie et dans quelles conditions et de quelle façon ils ont réussi à surpasser leurs difficultés tout en restant unis. Cela permet d'avoir un aperçu de comment le monde entier et en l'occurrence là les États-Unis ont traversé ce moment compliqué de notre histoire. Elle est affichée au Café des Champs-Libres jusqu'au 29 mars 2026. Donc n'hésitez pas au détour d'un petit café d'aller la voir, ainsi que toutes les autres, et en plus c'est gratuit. Pour terminer, je vous emmène au café à projet du 360, anciennement 4 bis, à la rencontre d'une expo artistique et collective sur un sujet toujours aussi sensible, celui des violences sexistes et sexuelles. C'est créé par l'association Vacarme, s'intitulant « Le cri des hyènes ». Cela allie à la fois des dessins originaux correspondant au corps et des textes poignants permettant en même temps d'exprimer leur créativité et d'extérioriser ce qu'elles ont vécu. Attention tout de même pour les personnes sensibles, certaines créations peuvent heurter car jugées trop explicites. Merci. L'exposition est présente jusqu'au 7 février. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Au même endroit, pour celles et ceux qui sont fans de manga, il y a un temps fort qui s'appelle Mangaprem. C'est un moment de partage autour de la thématique du manga, où l'on peut discuter, faire plein d'activités comme jouer à des jeux vidéo ou des jeux de société. C'est organisé et animé par l'association Le Morio Show. Cela se passe tous les 15 jours, le samedi de 18h à 20h. On vous y attend avec plaisir. Et pour finir, un peu de sport. Dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, Rennes reçoit Lorient au stade de la Route de Lorient ce samedi à 17h. Un derby breton qui promet d'être chaud comme souvent. En espérant vivement gagner et pouvoir, pourquoi pas, grappiller des places, on est bien évidemment tous derrière vous.
Merci beaucoup, Julien.
Merci.
On peut déjà te dire à dans 2 semaines pour une nouvelle chronique.
Ça va.
Nous, avant de se quitter, on jette une petite oreille sur le répondeur.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô. Allô.
Syllab, la radio sauvage.
Bon, il n'y a pas de message ce soir, mais je vous l'aurais dit, vous pouvez nous laisser un message vocal, nous dire ce que vous avez pensé de nos interviews, de nos reportages, qu'est-ce qui se passe près de chez vous, vous avez des idées de sujets, envie qu'on parle de quelque chose, un coup de gueule, un coup de cœur. Eh bien, dites-nous tout ça au 02 30 96 25 35. On diffuse tout ce que vous avez à nous dire à la place de ce que je suis en train de dire là, à la fin de l'émission. Merci Mose pour la technique et à lundi dans 6 heures avant minuit.
J-17 avant les 30 ans de la radio Syllab.
C'est festif.
Si, la, la.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.